VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 8 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Mali, la MINUSMA a été de nouveau la cible d'attaque dans le nord du pays.
Au Tchad, un manifestant tué hier à N'Djamena, selon l'opposition, qui a appelé à une journée ville morte à l'occasion de l'investiture du président Déby aujourd'hui.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad tente d'éviter l'encerclement total des quartiers sous son contrôle à Alep.
Ici aux États-Unis, les candidats Trump et Clinton prononceront cette semaine à Detroit des discours sur leurs plans économiques.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a été de nouveau la cible d'attaques dans le nord du pays. L'explosion d'une mine dans la région de Kidal a fait un mort et quatre blessés, tandis qu'une seconde n'a pas fait de victimes. Des détails avec Chérubin Dorsil.
Selon un responsable de la MINUSMA que cite l'agence France-Presse, les victimes sont toutes des Tchadiens, dont un casque bleu. Le communiqué de la mission onusienne précise que le véhicule qui les transportait et qui accompagnait un convoi logistique a sauté sur une mine vers 6h50 du matin à environ 11 km au sud d'Agelhok à Nefis. La seconde explosion, survenue environ 2h30 plus tard, n'a causé que des dégâts matériels. Là encore, un véhicule de la mission était la cible. La MINUSMA, qui a perdu une trentaine de soldats en un an, a réaffirmé que de tels actes n'auront pas d'effet sur son soutien aux efforts de paix dans le nord du Mali. Mais il n'y a pas que le nord à être visé. Des attentats ont également eu lieu dans le centre et le sud du pays. Fin juin, l'ONU a renforcé le mandat et les effectifs de la MINUSMA, tout en clarifiant sa mission d'assistance au gouvernement de Bamako dans le cadre de ses initiatives pour la paix et la réconciliation au Mali.
Au Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno doit être investi aujourd'hui pour un cinquième mandat. Dans un climat social explosif, un manifestant est mort hier à N'Djamena et l'opposition continue de qualifier la réélection de Déby de hold-up électoral et elle a appelé à une journée ville morte sur l'ensemble du territoire.
Un officier de police a dit à l'AFP, sous couvert d'anonymat, qu'un jeune Tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait à N'Djamena à l'appel de l'opposition et venait de déchirer le drapeau du MPS, le parti du président Déby. Le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, a affirmé que le jeune avait succombé à ses blessures après des tirs à balles réelles des forces de l'ordre pour disperser les manifestants.
Selon l'opposant, un autre jeune a également été touché par une balle au thorax avant d'être conduit à l'hôpital pour être opéré. Cette information n'a pas pu être confirmée de sources indépendantes. La manifestation avait dans un premier temps été dispersée à coups de gaz lacrymogène, mais plusieurs militants très remontés étaient retournés dans la rue pour braver les intimidations policières. Et la situation a dégénéré, a déclaré M. Kebzabo. Comme la veille où un meeting avait été dispersé par la police anti-émeute, l'opposition avait décidé de maintenir sa marche pacifique malgré l'interdiction décrétée par le pouvoir.
En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a entamé hier des négociations avec d'autres partis pour obtenir la majorité absolue et former un gouvernement dans les grandes villes où il est arrivé en tête. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un responsable du parti. L'Alliance et le Congrès national africain au pouvoir doivent discuter avec le parti qui a fini en troisième position au municipal, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, l'ancien leader de la jeunesse de l'ANC, a exclu toute coalition avec cette formation politique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle de novembre devrait être axée cette semaine sur l'économie. Le candidat républicain Donald Trump prononcera un discours sur son plan économique aujourd'hui à Détroit, dans le Michigan, et sa rivale démocrate Hillary Clinton prononcera son propre discours sur le même sujet vendredi dans la même ville, qui fait face à de sérieux problèmes financiers. Détroit est la capitale de l'industrie automobile américaine.
Et puis, le candidat républicain Donald Trump met en doute la santé mentale de son adversaire démocrate. Entre-temps, les deux rivaux poursuivent leur campagne. Donc, ce lundi, les précisions de Jean-Roger Bion.
Prenant la parole samedi dans l'État du New Hampshire, Donald Trump a qualifié Hillary Clinton de personne totalement déséquilibrée. Il s'est aussi moqué du commentaire de la candidate qui avait dit plus tôt qu'elle avait court-circuité en répondant à une question sur sa franchise dans cette affaire de serveur de messagerie privée qu'elle utilisait alors qu'elle dirigeait la diplomatie américaine en 2009 et 2013. La campagne de Clinton a regretté que la seule méthode de Donald Trump de faire face à une semaine désastreuse pour sa campagne est de se lancer dans de nouvelles attaques personnelles absurde. C'était la première visite du magnat de l'immobilier dans le New Hampshire depuis la primaire de février qu'il avait remportée par une grande marge. Mais un sondage la semaine dernière dans cet état du Nord-Est donnait une avance de 15% à Mme Clinton. Un nouveau sondage Washington Post ABC News publié hier dimanche a montré que la démocrate maintenait 8 points d'avance sur Trump à l'échelle nationale, soit 50% contre 42%. À noter cependant que près de 60% de l'électorat reste insatisfait du choix entre ces deux candidats. Hillary Clinton va chercher à renforcer sa position de leader de la course. Cette semaine a commencé par des meetings, aujourd'hui en Floride et à New York.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad tente d'éviter l'encerclement total des quartiers sous son contrôle à Alep. Il vient de subir un grave revers face à une coalition de rebelles et de djihadistes dans cette deuxième ville de Syrie, enjeu majeur du conflit. La coalition, l'armée de la conquête, a annoncé dimanche soir dans un communiqué lancer la bataille pour reprendre la totalité d'Alep.
Au moins 1 million de personnes ont investi les rues d'Istanbul en Turquie hier dans une manifestation de solidarité avec le président Recep Tayyip Erdogan, 3 semaines après l'échec d'un coup d'État.
Ce rassemblement de masse, le plus grand jamais vu par certains médias turcs, a marqué la fin de 3 semaines de manifestations nocturnes depuis le putsch du 15 juillet qui a coûté la vie à plus de 270 personnes, dont 34 organisateurs du coup.
Nous poursuivons notre chemin dans la solidarité. Nous nous aimerons les uns les autres, pas pour le rang ou le titre, mais pour Allah, a déclaré le président Erdogan sur la place Yenikapı d'Istanbul, protégée par un dispositif sécuritaire fort d'environ 15 000 policiers et de l'équipement antiaérien. 2 hélicoptères survolaient la foule, dont l'effectif n'a pas été estimé officiellement.
La déclaration peut-être la plus importante de la soirée, c'est quand le président turc s'est dit prêt à signer une loi pour rétablir la peine de mort si le Parlement approuve un projet de loi en ce sens. La peine de mort a été abolie en Turquie en 2004 et l'Union européenne a averti que son rétablissement mettrait fin aux chances de rejoindre le bloc de 28 nations.
Presque toute la classe politique était au rendez-vous dimanche sur invitation du Parti de la Justice et du Développement, mais le chef du Parti démocratique populaire pro-kurde n'était pas sur la liste. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Les Jeux Olympiques ont débuté à Rio depuis vendredi et l'Afrique tient enfin sa première médaille.
Oui, elle nous vient de la natation sud-africaine, c'était attendu. Il s'appelle Cameron Van Der Burg. Il s'est classé 2e du 100 mètres brasse cette nuit dans la piscine de Rio, le temps en 58 secondes et 69 centièmes. Autre bon résultat hier en football, le Nigeria poursuit sur sa lancée dans ce tournoi olympique. 2e match et 2e victoire. Cette fois, ce sont les Suédois qui en ont fait les frais. 1-0 pour les hommes de Samson Siasia. Le Nigeria premier de son groupe B devant la Colombie.
La journée de dimanche a vu les représentants africains enchaîner les mauvaises performances.
Quelques exemples. En handball, la Tunisie chez les hommes s'est inclinée face à la France, 23 à 25. Chez les dames, en handball, basket, lourde défaite des Lions de la Teranga. Le Sénégal s'incline 56 à 121 face aux Américaines, couronnées lors des 5 dernières éditions et largement favorites du tournoi. Les championnes d'Afrique 2015 sont arrivées à Rio après un voyage harassant de 2 jours et une préparation à minima. Compte rendu de ce match avec l'envoyé spécial de VOA à Rio, Alvaro Andrade.
C'est un grand plaisir pour nous de participer aux Olympiques. Ce n'est pas la première fois, mais on souhaitera les Lions de gagner le basketball et les athlètes. Des médailles.
Amis Pape est un Sénégalais qui réside au Brésil et autres collègues sont venus soutenir l'équipe mais voulaient un meilleur résultat. Les Américaines, multiples championnes olympiques en titre, ont entamé les Jeux de Rio en infligeant une correction aux Sénégalaises. 121-56. Lauréat des 5 précédentes Olympiades, le Team USA n'a pas perdu dans cette compétition depuis le demi-finale de l'édition 92, achevé à la 3e place. Le Sénégal a commencé les Jeux Olympiques de Rio avec 7 entrées en matière fracassante. Les champions d'Afrique 2015 sont arrivés à Rio après un voyage récent de 2 jours et une préparation à minima. Face aux Américains et Brittany Greener, les Lions de la Teranga, qui n'ont jamais raté un podium des jeunes Africains depuis 1963, ont très rapidement pris de l'eau dans le premier quart-temps. Elles ont été bousculées par les Américaines et une défense en béton 35-9. Le jeu a été pratiquement décidé, mais l'équipe des États-Unis n'a pas réduit de la vitesse. Sénégal joue contre la Chine le lundi et le Canada mercredi. Ils sont deux très forts équipes et avait une plus grande tradition dans les Jeux olympiques. VOA Afrique, Rio de Janeiro, Alvaro Andrade.
Et on poursuit ce tour d'horizon avec le judo. Rodrigue Koukou Ndongala, le judoka congolais, a perdu son premier combat d'emblée chez les moins de 66 kilos. Le reportage à Rio de Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Aligné chez les moins de 66 kilos, Rodrigue Koukou a perdu dès son premier combat, battu 10-0 par le Dominicain Matteo Wander. Courte expérience pour ce jeune judoka congolais qui vit en Afrique du Sud et qui en était à ses tout premiers Jeux Olympiques. Toujours dans la même catégorie, le Zambien Punza Mateus n'a pas fait mieux, éliminé à l'étape des 16e de finale par le Slovaque Gombok Adrien. Il ne reste plus que 3 athlètes de la RDC en course. Béatrice Kamushanga, jeune athlète originaire du Nord Kivu qui sera alignée sur 5000 mètres le 16 août prochain. La taekwondoïne Kele Kuroza, porte-étendard de la RDC chez les moins de 49 kilos. Le marathonien Dieu merci Makorobondo va lui clôturer ses Jeux Olympiques le 21 août courant. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En tennis, Nicolas, il ne fait pas bon être tête de série à ces Jeux Olympiques.
Ah, c'est la Berezina Idrissa. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a été éliminé par Juan Del Potro. Le score 7-6-7-6. Les sœurs Williams ont elles aussi été éliminées. Double championne olympique en titre, Serena et Venus ont été sorties dès le premier tour du double. C'était dimanche à Rio par la paire tchèque Lucie Safarova et Barbora Stritkova. Le score 6-3-6-4. Enfin, même scénario en double pour les frères Murray.
Un mot sur le nageur américain Michael Phelps qui a remporté une 23e médaille olympique, un nouveau record.
Et celle-là, elle est en or, Idrissa. Phelps l'a remporté hier soir avec le relais américain 4 fois 100 mètres. Au total, Phelps a remporté 19 médailles d'or. C'est tout simplement incroyable.
À suivre ce lundi.
Oui, le Gambien Fai Nijé sera sur les tatamis. C'est du judo chez les moins de 73 kilos. La Sénégalaise Hortense Diédiou, elle entrera en compétition en moins de 57 kilos. Pour l'heure, au tableau des médailles, ce sont les États-Unis qui sont en tête devant la Chine, puis l'Australie.
Un dernier mot sur le football, Nicolas. Paul Pogba, lui aussi, rentre dans l'histoire.
Oui, le joueur de la Juventus de Turin devrait officiellement être transféré à Manchester United ce lundi. Le montant, 120 millions d'euros. C'est un record. Pogba devient le joueur le plus cher de l'histoire.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco avec John Linden.
Au Kenya, plombé par les taux de change et des coûts d'emprunt en hausse, Kenya Airways a enregistré une perte nette de 230 millions d'euros sur l'exercice annuel achevé fin mars 2016. Créé en 1977, Kenya Airways était considéré il y a à peine 10 ans comme une des compagnies aériennes les plus rentables au monde. La dette de Kenya Airways excède aujourd'hui le milliard d'euros. La chaîne hôtelière intercontinentale envisage d'ouvrir des établissements dans 3 nouveaux pays en Afrique, notamment en Algérie, en Éthiopie et en Ouganda. Intercontinental comptait déjà 25 hôtels dans 9 pays africains, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya. À l'échelle mondiale, le groupe dispose de 5000 hôtels et près de 740 000 chambres dans près de 100 pays. 2,6 milliards de dollars, c'est ce que coûte la malnutrition chaque année au Ghana, selon une étude commandée dans le cadre de l'agenda 2063 par l'Union africaine en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Cette étude a été menée pendant 2 ans, de 2013 à 2015.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par le Tchad, élu dès le premier tour face aux 12 autres candidats en lice. Idriss Déby Itno sera investi aujourd'hui pour un 5e mandat consécutif. Une investiture sur fond de crise politique. Le point avec André Kotmajingar.
Une investiture jamais connue dans la vie politique au Tchad, car elle est perturbée par une série de manifestations ce week-end initiées par le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement FONAC pour dire non à l'élection de Déby au premier tour. Et pour contenir ce mouvement d'humeur, le gouvernement a déployé tout un arsenal de guerre, plongeant ainsi les Ndjamena dans une psychose totale. Empêchés par les enjeux de guerre de suivre l'itinéraire normal de la marche pacifique de leur leader ce samedi, les militants de l'opposition ont organisé des manifestations sectorielles en petit groupe donnant ici de travail aux forces de l'ordre. Manifestation tournée à l'émeute. Témoignage de quelques blessés.
Les forces de l'ordre commencent à tirer sur nous, lancer le gaz par-ci. Et moi, j'ai résisté. Ils m'ont pris. Ils m'ont torturé.
J'ai sauté, j'ai tombé dans l'eau et puis ils ont monté sur mon pied là avec des véhicules. Ça me fait mal jusqu'à là. Mais ce que je veux dire au peuple tchadien, on peut se sacrifier pour la liberté. Même si nous allons mourir, les autres sont là, ils vont être en liberté.
Un militant grièvement blessé par balle a succombé quelques minutes plus tard dans un hôpital de la place. Le président du Parti socialiste sans frontières, Dinamo Daram, membre du FONAC qui a été brièvement interpellé par la police, a déclaré à sa sortie que cette intimidation n'entame en rien la détermination de l'opposition.
Déby a confisqué notre pouvoir par force parce qu'il est armé et nous, pacifiquement, nous réclamons notre victoire. Aujourd'hui, Déby est illégal, illégitime et nous allons continuer à manifester jusqu'à notre dernier souffle.
Salih Kebzabo, coordonnateur du FONAC, insiste sur le caractère légal de la lutte de l'opposition.
Quand ils ont tiré sur nous au meeting, ils n'avaient pas le droit pour le gaz lacrymogène de viser quelqu'un. Ils tirent au sol. Or, ils visaient les individus. Les militants de l'UNDR, du PLD, de Capsure qui étaient en meeting, n'ont pas porté atteinte à l'ordre public. Ils étaient dans le siège d'un parti politique. Et c'est à l'intérieur là qu'on les a gazés. Ça, c'est une action criminelle.
C'est sous cette tension politique que le président Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, s'apprête à être investi. Quelques Tchadiens parlent de leur attente pour ce nouveau mandat.
Ce que le président Idriss Déby Itno doit vraiment faire, c'est de nourrir la population. Il faut que la population soit vraiment nourrie.
On veut seulement la liberté et la cherté de vie. Il faut que ça change un peu. Le retard des paiements des fonctionnaires aussi.
Quand nos opposants s'arrêtent à donner des idées qui ne font pas à leur place, on a choisi un président. Que le président se mette au travail pour le peuple tchadien.
André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, beaucoup de voix continuent de demander un dialogue politique afin d'apaiser des tensions encore palpables dans le pays. Plusieurs opposants, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, sont toujours détenus, alors que les manifestations des partis qui contestent l'élection de Denis Sassou Nguesso sont interdites. Une partie de la classe politique et la société civile préconise donc le dialogue, nous dit notre correspondant sur place, Ngwela Ngusu.
Un dialogue politique est-il toujours possible dans le pays? La question se pose partout et plusieurs acteurs politiques y croient dur comme fer. Omer Defundu, du mouvement Sauvant le Congo.
À force de persévérer, nous aurons le dialogue comme l'exige le peuple en ce moment. Et de toutes les façons, la situation de blocage que nous vivons nous conduit à faire quelque chose pour sortir de ce blocage. Faire autrement, c'est continuer encore avec beaucoup de malheurs, beaucoup d'arrestations, beaucoup de tueries, beaucoup d'assassinats, parce que les gens qui ne sont pas contents vont toujours manifester.
Paul-Marie Pouillet, président du Rassemblement des jeunes républicains, lui, pense même que le dialogue devra être la nourriture quotidienne en politique.
Pour aller discuter, nous sommes des Congolais, il n'y a personne qui sera un apatride ici. Nous sommes tous des Congolais, nous avons besoin de discuter, de nous parler pour que nous ayons des solutions à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. C'est le cri de cœur que je lance à toute la classe politique, à tous les Congolais, se parler sans jamais se lasser de discuter.
Le Premier ministre Clément Mouamba avait annoncé devant l'Assemblée nationale que le dialogue politique sera au cœur de son action. Mais de quoi sera-t-il question à ce dialogue s'il venait à avoir lieu? Le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, Pierre Ngolo, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, estime que l'élection présidentielle est terminée et que le vainqueur est connu. Pourquoi un autre dialogue? C'est Clément Mirassa de la coordination du FROCAD qui lui apporte la réponse.
S'il faut aller recompter les voix, on ira recompter, mais les résultats aujourd'hui ne traduisent pas. Et on traque les opposants, les réduire au silence, faire en sorte qu'il n'y ait pas de liberté de circuler. Pourquoi? Si tant l'assurance était là dans la victoire et dans la conduite des affaires de l'État.
Pour le coordonnateur de l'IDC, Charles Zachary Bouaou, aucune question ne sera esquivée pendant cette rencontre.
Toute la question de la démocratie congolaise dévoyée nous interpelle. Vous connaissez ce qui s'est passé dans ce pays le 25 octobre, c'est un coup d'État. Ce qui s'est passé le 20 mars, c'est un hold-up électoral. On a beau dire ce que l'on veut, mais tout le monde, en interne comme en international, l'a compris. Voilà pourquoi, dans cette démarche, nous continuons à appeler à un dialogue inclusif pour que, se mettant ensemble, les Congolais puissent travailler à sortir de l'insalubrité public dans laquelle nous baignons.
À exactement une semaine de la célébration de la fête de l'indépendance du pays, de nombreux Congolais continuent à appeler à l'apaisement général. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En République centrafricaine, la cohabitation entre éleveurs peuls et habitants riverains de la SEGA, la Société d'État de gestion des abattoirs de Bangui, tend à se normaliser. Aujourd'hui, les éleveurs peuvent librement faire paître leurs bœufs dans les parages, ce qui n'était pas le cas il y a seulement quelques semaines. À cela, il faut ajouter l'insalubrité dans cet unique lieu d'abattage des bêtes de la capitale. Reportage de Freeman Sipila.
Aujourd'hui, tout le cœur semble s'apaiser et la vie reprend son cours normal aux alentours de la SEGA. Éleveurs et habitants riverains étaient à couteau tiré. Les uns accusent les autres d'avoir laissé leurs bœufs commettre des dégâts dans leurs concessions ou sur leurs produits étalés le long du fleuve Oubangui. Patrick est vendeur de sable.
Il y a beaucoup de problèmes parce qu'au moment qu'ils sortaient, ils sont allés chercher les herbes pour nourrir leurs bœufs. En allant, les bœufs, ils détruisent les champs, ils détruisent les sables des gens et ça devient des mésententes. Dans les quartiers là-bas, les gens qui font le chantier du brique là, le bœuf marche sur ça et ça devient toujours des mésententes. Parfois, les gendarmes interviennent pour arrêter ça, mais ce n'est pas aussi facile.
Des mésententes qui ont laissé place à des compromis. Idriss Abdoulaye est éleveur. Il peut aujourd'hui faire paître ses bœufs en profondeur des quartiers à plusieurs centaines de mètres de la SEGA.
Non, il n'y aura pas la paix. Quand je lance cela, il n'y aura pas les quêtes, mais pas
de non, nous n'avons plus de problème. Aujourd'hui, nous nous entendons bien. Un jour, une femme s'en était prise à moi, mais ceux qui étaient là l'en avaient défendue. Nous faisons paître nos bœufs, même en profondeur des quartiers. Si on leur demande de nous donner à boire, ils le font. Parfois, on y reste jusqu'à 13 heures avant de rentrer. Si les habitants insultent quelqu'un, ça veut dire que ces bœufs ont causé un dégât chez eux.
Pour mieux sécuriser les éleveurs et leurs troupeaux, le ministère de la Sécurité a annoncé début août la création d'une unité spécialisée, une manière de mettre fin aux raquettes des éleveurs par certains éléments des forces de l'ordre. Jean-Serge Bokassa, ministre centrafricain de la Sécurité publique.
Tous les porteurs de tenue sont tenus justement de faire des efforts dans le sens de l'intégrité, du respect de la déontologie de leur profession. Il faut qu'ils soient exemplaires, qu'ils soient des modèles. Je propose de mettre en place une seule unité. Nous allons responsabiliser une unité spécifiquement pour le contrôle des convois qui arrivent à Bangui.
Il faut ajouter à l'aspect sécuritaire l'insalubrité au sein de la SEGA, elle-même en état de délabrement très avancé. Ces passants, on appelle à une action rapide des autorités.
J'aimerais parler au gouvernement qui passe voir devant ces gars parce que les bœufs qui marchent partout, parfois il pleut et il y a de la boue, ils piétinent la boue et ça sent mauvais aussi, il y a trop d'odeur. Parfois le caca aussi sent et ça ne fait pas du bien aux environnements.
Au niveau de ces gars ici, vraiment, on a beaucoup souffert ici. Il y a des odeurs. Dès que la pluie tombe là, vraiment, il y a une odeur qui se dégage jusqu'au niveau des quartiers.
Les responsables de la SEGA, cette unique société d'abattage des bêtes installée aux abords du fleuve Oubangui, n'ont pas encore réagi à cette situation. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31 40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Baby, I like you so.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.